Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Génération podcast.
Génération podcast.
Génération podcast.
Génération
podcast.
Génération.
Génération podcast.
Podcast.
Génération podcast.
Generation podcast.
Salut, salut et bienvenue dans cet épisode spécial de Génération Podcast, le podcast qui parlait déjà de podcast avant que ça ne soit à la mode. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier et ce pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, je ne suis pas seule puisque je suis entourée de mes deux acolytes et fervents supporters de Génération Podcast. Vous connaissez leur voix puisque vous avez déjà eu l'occasion de les entendre par ici et en plus, ils font bien entendu des podcast. J'ai nommé donc Vincent Zuresco, que vous connaissez aussi sous le nom de Zu, et Hervé Obold, aussi connu sous le nom de Hervé.
Voilà.
Salut, salut vous deux et bienvenue.
Salut, coucou.
Merci beaucoup d'être là. Alors je vais vous présenter en quelques mots. Hervé, vous l'avez déjà entendu dans Génération Podcast à 4 reprises, c'est déjà ta 5e fois, on peut dire que t'es presque un co-host à ce stade.
Ouais, j'ai mon rond de serviette à la table de Génération Podcast.
C'est un peu un habitué du coin. Il a été mon coach sur l'un des tout premiers, enfin sur le tout premier pardon, anniversaire de Génération Podcast, mais aussi dans un épisode entretien dans lequel on dressait son portrait podcastique, dans un épisode sur les podcasts d'actualité dans lequel on avait pas mal rigolé, et enfin sur un épisode un peu plus récent sur les podcasts de marque. Hervé, tu es derrière le studio Stéréolab. Tu produis des podcasts tels que Travail Soigné, ma chanson préférée, mais aussi et plus récemment et peut-être plus régulièrement actuellement, Une Époque Formidable, qui est sortie, il me semble, il y a déjà 2 mois.
Mi-décembre.
Mi-décembre, et que tu as lancé avec Alex Blom et Samia Basile. Ça va ?
Ça, on y est presque, ouais. Alors, ma chanson préférée, bon, Coma, c'est Coma.
Prolongé.
Prolongé, bon, Travail Soigné, pareil, hein, en soins intensifs, quoi.
On va dire hibernation plutôt que coma.
Voilà. Ouais, c'est un peu plus positif.
Travail Soigné, je vais le réanimer de temps en temps.
D'accord.
Pour pas qu'il trépasse.
Okay.
Ma chanson préférée, c'est Compliqué. C'est compliqué parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis là, ça fait... Il y a un moment, tu sais, quand tu t'en es plus occupé, tu te dis, bon, bah, on n'est plus à un mois près. Puis au bout d'un moment, on n'est plus à un an près, quoi. Et puis après, on n'est plus à... On n'est plus à ça près. Quoi.
Mais écoutez, en tout cas, si vous voulez suivre les podcasts que Hervé continue de sortir, vous pouvez le retrouver. Il est à peu près sur tous les réseaux, Instagram, LinkedIn et Twitter, il me semble.
Ou alors Twitter, je déserte, mais oui, je check de temps en temps.
Et voici Zu, aussi connu sous le nom de Vincent Zuresco. Vincent, c'est monsieur fiction audio de Génération Podcast. Il en écoute, il en produit. Et j'avoue que si j'en écoute aujourd'hui des fictions audio, bah c'est en grande partie grâce à toi, Vincent. T'as écrit un podcast très fin et rigolo qui s'appelle Radio Pôle, les flash infos de l'atelier du Père Noël, qui est sorti en décembre dernier, que je vous recommande par ailleurs. T'es responsable du pôle fiction du label Podcut et tu as aussi été aux commandes finalement d'un épisode par mois de la saison 2 de Génération Podcast dans lequel tu nous livrais tes recommandations tous les mois.
Et pas que de fiction, pour le coup.
Et pas que de fiction, c'est vrai.
J'en ai beaucoup casé, mais j'ai quand même fait... pas mal d'autres trucs, en français, en anglais.
Et alors, puisqu'on en est aux présentations, moi c'est Anne-Fleur Andrely, je me permets de me présenter en 2 mots, je vous mets au défi de l'écrire, personne ne sait écrire mon nom de famille. Je suis la créatrice de Génération Podcast, qui est un podcast qui a vu le jour il y a déjà 2 ans, un petit peu plus de 2 ans.
Un peu plus de 2 ans maintenant, oui.
Un peu plus,
oui.
Puisqu'on est un petit peu à la bourre.
Un petit peu à la bourre.
C'est le décalage horaire.
C'est ça,
voilà.
On peut dire que c'est ça.
Il y a quelques mois de décalage horaire.
Génération Podcast, c'est un podcast qui célèbre le podcast sous toutes ses formes, sauf YouTube, parce qu'il ne faut pas non plus trop déconner.
Et alors ça, il y aurait débat, hein, parce que...
J'ai justement écouté un autre podcast qui disait qu'il y a YouTube Podcast qui est en train de se lancer aux États-Unis.
Ouais. Donc,
C'est en train de se concrétiser, mais bon, c'est au rythme Google, hein, c'est-à-dire que ça prend quand même un certain temps.
Et puis Google n'est pas très en forme côté podcast, puisqu'ils ont arrêté de référencer les podcasts. Donc,
voilà, mais peut-être si pour mieux investir YouTube, va savoir.
C'est vrai, c'est vrai. En voilà un débat qu'on aurait pu avoir, mais qu'on n'a pas prévu.
D'après ce que j'ai entendu, bon, si ça, on doit lancer le débat, ce que j'ai entendu, c'est qu'il pouvait y avoir des podcasts sans vidéo. juste avec une image fixe, quoi.
C'est comme maintenant, si tu veux, genre sur Acast, ça publie automatiquement tes épisodes sur YouTube,
que,
mais c'est
alors
pas...
Après, d'un point de vue...
expérience utilisateur, c'est un peu moche.
Oui, alors ça, oui, clairement. Mais c'est parce que justement, jusqu'à maintenant, pour uploader un podcast sur YouTube, alors déjà, tu passes pas par ton flux RSS, donc t'es obligé de faire ça à côté. Bon, heureusement, il y a des hébergeurs qui le font automatiquement, certes, mais ça génère une vidéo qui ne sert strictement à rien,
bah,
alors qu'on pourrait juste avoir une photo. Et ça éviterait de bouffer de la bande passante, voilà, comme des débiles avec des podcasts qui durent 4 heures et qui utilisent de la vidéo pour rien.
Mais alors, tu vois, en même temps, je vais me faire l'avocat du diable dans l'autre sens. Le week-end dernier, j'ai lancé le podcast de Léna Situation, Canapé 6 Places, qui était plutôt sympa. Et en fait, donc, tu sais, c'est un exclusif Spotify. Et en fait, quand tu lances Spotify, j'avais jamais fait gaffe, t'as la vidéo en fait qui se lance. Comme d'habitude, j'écoute le podcast en marchant ou en voiture, j'avais jamais fait gaffe. Et c'était assez sympa en fait. Enfin, j'avoue que tu vois, moi la vidéo en podcast, j'étais pas trop pour. Mais c'était assez sympa finalement, je sais pas, de... T'as l'impression un peu d'être dans les coulisses et d'en savoir plus. Enfin, tu peux du coup l'écouter sur les deux modalités, mais c'était... j'ai bien aimé.
Ouais, mais il y a un truc qui m'a choqué, j'en ai regardé qu'un, parce que j'ai pas le temps. Déjà d'en écouter beaucoup plus, mais ce qui, je me suis dit, non, c'est le sur le débat audio ou vidéo, bah là, ils font un peu les deux, et du coup, en termes de montage vidéo, bah, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent.
Ouais, mais ils ont deux plans, ce qui fait qu'ils peuvent quand même se permettre de faire des coupures.
Ouais, mais du coup, tu peux pas faire des coupures comme tu le fais quand tu n'as que du son, parce que sinon, ta vidéo, c'est combini, quoi.
Exactement, j'ai ce problème sur des podcasts que je réalise, et c'est infernal.
Tu réalises des podcasts vidéo ?
Je réalise la partie podcast d'un truc qui est pas mal en vidéo. Ça s'appelle Nulli Part, c'est vachement bien. Mais des fois, je peux pas couper parce qu'il y a la vidéo derrière.
Donc, c'est plus du podcast, quoi. C'est plus
et,
du son.
Et à l'audio, bah, il reste des trucs que naturellement...
Que t'aurais aimé retirer, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Comme quoi, en fait, ça change même notre travail, en fait, complètement.
Bah, oui, c'est pour ça que c'est pas la même chose, quoi.
Le travail d'habilleur sonore sur de la vidéo, c'est pas le même travail que monteur de podcast.
Écoutez, si vous avez un avis sur le sujet, n'hésitez pas à venir participer. Je ne sais pas trop où on est, sur peut-être Instagram ou sur LinkedIn. En tout cas, ce soir, aujourd'hui, ce matin, je ne sais pas trop quelle heure il est chez vous, nous allons fêter les 2 ans de Génération Podcast. Pour le contexte, puisqu'on est à l'audio, donc on en parlait. Sachez que moi, donc, je suis basée dans le Colorado, aux États-Unis. Hervé et Vincent sont en région parisienne. Mais à la base, on avait rendez-vous en personne il y a un peu plus de 2 mois au Charlie et sa bière à 2 balles, un bar très sympa dans le coin de Bastille à Paris, pour faire ça en live. Sauf que, bah, à croire que j'en fais une habitude, j'ai attrapé une grippe de l'espace quelques jours avant. Et bah, si j'ai cru jusqu'au dernier moment que je parviendrais à fêter ça en live avec vous, et bah, ça a finalement été un petit peu au-dessus de mes forces. J'ai donc été contrainte d'annuler à regret. Mais il me semble que vous deux, Vincent et Hervé, vous vous êtes quand même retrouvés, non, ce soir-là ?
On s'est retrouvés ce soir-là avec quelques autres qui avaient prévu de venir. Et on a bu quelques bières à ta santé.
Exactement. Moi, je me remettais de la même grippe.
C'est ça ?
J'étais sur la faim. Mais c'est pas moi qui te l'ai refilé, parce que par internet, on se refile pas ce genre de truc.
A priori.
Non, pas encore, croisant les doigts. Mais ouais, non, on a bu quelques coups et c'était bien sympa.
Mais ils ont été super gentils au Charlie. Ils m'ont proposé de faire ça en janvier, mais bah, malheureusement, je devais rentrer aux États-Unis. Donc ouais, j'espère que ce n'est que partie remise. Dans cet épisode anniversaire de Génération Podcast, bon, on va être fidèle à notre mission, qui est de découvrir et de contribuer à faire découvrir de nouveaux podcasts, se tenir informé de ce qui se passe dans l'écosystème sans se prendre la tête. De mon côté, je vais vous parler d'un des épisodes les plus écoutés de Génération Podcast depuis sa création. M'excuser aussi, vous verrez, et vous parler de la suite et de l'équipe. Bien entendu, j'ai également mis au boulot mes amis Hervé et Vincent. Est-ce que vous voulez me raconter un petit peu de quoi vous allez parler ?
Moi, je vous prépare un petit survolage d'une catégorie de podcast un peu méconnue et qui mérite à être connue.
Et moi, je me suis lancé sur les traces d'un des podcasteurs indépendants les plus emblématiques et singuliers.
Ah ah ! Écoutez, j'ai hâte d'entendre tout ça. Avant toute chose, donc je le disais, je dois présenter mes excuses.
T'as toujours un truc à te reprocher, hein, de toute façon. Hein.
Oui, voilà, non mais c'est ça, je pourrais en faire tout un épisode. Mais là, tout de suite, je voudrais présenter mes excuses à un certain Alexandre. Alexandre, il habite en Auvergne et il a appris l'annulation du live de décembre alors qu'il était dans le train en direction de Paris. Je lui ai en tout cas proposé de répondre à quelques-unes de mes questions et je vous propose de l'écouter. Comment vas-tu ?
Écoute, très bien.
Après le lapin que je t'ai posé il y a quelques semaines.
Non, t'inquiète pas, c'était rien. En tout cas, moi je suis ravi d'être là avec toi.
Alors, Alexandre Ferreira, il est en fait ingénieur du son et compositeur. Il a bossé pour l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pendant plusieurs années. Il est passé par RTL, il bossait notamment sur les émissions sport pendant presque 10 ans. Et un jour, il tombe sur une annonce du Parisien qui cherchait un ingé son pour son podcast d'actualité, que j'adore, soit dit en passant, Code Source. Et en fait, c'est comme ça qu'Alexandre est tombé dans le monde merveilleux du podcast. Mais vous allez voir que c'est pas complètement toute l'histoire, parce qu'en fait, le podcast pour lui, c'est quand même, peut-être même avant tout, une histoire de famille.
La même semaine où on a commencé Code Source, j'ai commencé avec mon beau-frère et ma belle-sœur Encore une histoire. Et c'est vrai que bah, ça a été tout podcast en même temps, quoi. Et très vite, au bout de quelques mois après, j'ai arrêté de faire tout le reste. À la base, j'étais vraiment très, très radio. Et en fait, j'ai commencé à bosser à RTL. J'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai aussi fait du court-métrage, de la sono. Enfin, j'ai fait vraiment beaucoup de trucs très différents qui n'avaient rien à voir. Et moi, le son seul, c'est vraiment un truc qui m'intéresse, quoi. C'était vraiment le truc qui m'intéressait. Et donc là, quand tous les podcasts, vers 2019, tout s'est ouvert, quoi, au niveau du podcast. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Ce que j'aime surtout, c'est raconter des histoires, que ce soit pour les adultes, pour les enfants, sous quelque forme que ce soit. Je pense que même, Code Source, en fait, ça raconte des histoires. Exactement comme, Fabrice Drouel ou bien d'autres podcasts. Finalement, il y a un côté très narratif et c'est ça vraiment qui m'intéressait. Comment le rendre, que ce soit uniquement avec la voix et très peu d'habillage ou avec beaucoup d'habillage aussi, des effets sonores. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut, du temps qu'on a aussi. Mais vraiment, ce qui m'intéressait, c'était la narration. Et Code Source, c'est vraiment de la narration sonore pour moi. Encore aujourd'hui, et encore une histoire, c'est complètement de la narration, vu que c'est vraiment des histoires pour les enfants. Enfin, dans Encore une histoire, on a vraiment augmenté le côté sound design, et puis bruitage, effets sonores, enfin voilà, toutes ces choses-là, on a essayé d'accentuer ça dans la production, et ça m'a amené aussi à travailler sur Merci Rémi, qui est un podcast aussi pour enfants, où il y a énormément d'habillage.
Donc en gros, Alexandre, il bosse sur tout. Il monte et réalise Ex pour Agathe Le Caron. Il a fait pas mal d'épisodes de L'Heure du Monde, des maternelles, et il en a mentionné d'autres au début. Mais alors, un des trucs qui l'a vraiment marqué ces derniers mois, c'est la fiction audio, je l'appelle la audio novelas payante de Bilge Audio, qui s'appelle Roger est mort. Et je laisse vous en parler, car ça l'a vraiment beaucoup touché.
Parce que c'est à la fois de la narration à la première... Enfin, c'est de la fiction, hein. Mais c'est une narration toujours à la première personne. Donc, il y a vraiment un gros challenge de rythme, en fait. De rythme et de faire vivre les émotions avec une seule voix.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un épisode quotidien raconté toujours par une personne qui habite dans ou en face d'un immeuble et qui raconte, en fait, c'est un peu sa version de l'histoire, en fait. C'est un peu...
Ouais, exactement. Chacun, en fait, a sa version de l'histoire, a la version d'un événement et... L'histoire avance comme ça, par espèce de tuilage de personnages. Donc à chaque fois, les différents points de vue vont faire avancer l'intrigue. Et là, ça a dépassé largement les 100 épisodes. C'est assez fou, hein. De toute façon, de lancer une quotidienne, déjà, c'est assez dingue. Mais de lancer une fiction quotidienne, c'est un défi quand même incroyable. Mais voilà.
Et payant en plus.
Ouais, en plus. En plus, donc il y a plusieurs défis sur ce projet-là, et puis au niveau de la réalisation, c'est vraiment super intéressant, quoi. Et c'est vraiment ce genre de choses qui m'intéresse. Et je pense que en podcast, on va de plus en plus vers ça, mine de rien, vers une plus grosse qualité des productions et vers du coup de plus en plus de, enfin une attention quand même qui est portée plus en plus sur le son, quoi. Il y a énormément de talk, mais il y a de plus en plus de programmes comme ça qui.
Mais même dans le talk, en fait, la qualité sonore. Enfin, je veux dire, tu disais, tu étais un peu propulsé dans ce monde-là du podcast en 2019. Moi aussi, ça colle un peu avec ce moment-là. Depuis 2019, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Des fois, tu réécoutes des trucs que tu écoutais en 2019 et tu fais « Ah ouais, mes oreilles n'étaient pas pareilles
». Je trouve que c'est... Après, je trouve ça super, hein, que ça monte en gamme. Et puis, de toute façon, avec les derniers sondages radio là, qui sont sortis, je pense que c'est logique, en fait. Il y a une écoute qui se déporte. C'est quelque chose qu'on a vu dans plein d'autres pays, en fait. Le nombre de personnes qui écoutent la radio en France baisse. Bon, ça fait des années que ça baisse, mais et du coup, où vont ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont écouter? Et ben, en fait, on se rend compte qu'ils vont écouter beaucoup les plateformes, comme Spotify, Deezer, ils vont écouter de la musique, parce qu'en fait, voilà, les radios musicales sont remplacées par des playlists, et en même temps, bah, voilà, les programmes radio, ils sont aussi remplacés d'une certaine façon par les podcasts, en tout cas dans l'usage.
Ah, c'est intéressant.
Bah ouais, moi je pense que... Enfin, après, ça peut être aussi très complémentaire. L'écoute en direct, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais c'est vrai que voilà, la flexibilité du podcast, et c'est pas pour rien qu'il y a plein de radios qui mettent leurs émissions phares en podcast directement. Comme bah, Ondelat ou Fabrice Drouel aussi, c'est pareil. On a les épisodes avant sur l'appli et ensuite à l'antenne, quoi.
Avec Alex, on a aussi parlé de son boulot dans l'ombre des podcasteurs, si je puis dire, puisque bah, il travaille en coulisses finalement. J'ai beaucoup aimé la notion de contraste qu'il apporte et qu'il propose. En gros, ce qu'il explique, c'est que c'est difficile finalement pour le grand public, pour les auditeurs, donc d'imaginer le nombre de personnes qui bossent derrière un contenu audio très produit, si je puis dire. Surtout en fait, quand on ramène ça en fait au parallèle, au modèle initial du podcast, qui était en fait le podcasteur indépendant, bah, qui faisait tout lui-même.
C'est difficile de voir le monde que ça peut impliquer, en fait. C'est-à-dire que sur des plus grosses productions de podcasts, tu peux avoir énormément de gens en fait qui travaillent. Sur un seul produit, sur une seule série de 10 épisodes, tu peux avoir des dizaines de personnes, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un peu difficile... C'est un peu difficile de l'imaginer quand on voit parallèlement qu'il y a des podcasts qui se font avec une seule personne, toute seule, chez elle, qui fait tout. Donc forcément, on l'imagine moins qu'il y a du travail d'équipe.
Un des trucs en fait que vous faites, alors pour les podcasts qui sont moins habillés, etc., vous vous rendez presque invisible en fait, parce que tu rends la narration super fluide, super naturelle, etc. Et ce qui fait que pour quelqu'un peut-être qui ne travaille pas non plus dans ce domaine-là, c'est hyper difficile d'imaginer qu'en fait, c'est pas un one-shot. Enfin, tu vois, c'est pas
évident. Ouais. Notre travail, ça a toujours été d'être invisible. Que ce soit quand tu es ingénieur du son, en fait, que tu sois à la radio, à la télé, que tu fasses des tournages, du cinéma, en fait, ton boulot ne doit pas s'entendre. C'est-à-dire que les moments où on te remarque, généralement, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu une erreur, c'est qu'il y a eu une imperfection. Et du coup, on cherche à, justement que ça n'existe pas, en fait. Et sur le podcast, c'est plus facile parce que tout est monté. Donc, forcément, on peut réécouter plusieurs fois et revérifier qu'il n'y a pas de souci. Et puis après, je pense qu'il y a une question de rythme, en fait, beaucoup. Moi, j'ai quand même eu l'habitude de travailler sur du reportage ou sur des témoignages où c'est pas forcément des gens qui ont l'habitude de parler. Tu vois, pas forcément l'habitude de raconter. Donc là, il faut couper beaucoup de choses. Et notre travail, ça va être de faire des coupes qui s'entendent pas, de faire en sorte de rendre justice, en fait, à la parole de la personne, malgré ses imperfections, c'est-à-dire malgré des tics de langage, malgré des répétitions, malgré des respirations, des bruits de bouche, des choses comme ça, d'aller magnifier cette parole sans la dénaturer, sans aller changer le sens des mots, etc., mais de la rendre plus claire et plus facile à comprendre.
Est-ce que tu saurais me parler, en fait, c'était quoi, je sais pas, là, on est en janvier 2023, c'était quoi le truc dont tu es le plus fier en 2022, justement, parce que j'ai l'impression que ça s'est encore beaucoup accéléré pour toi professionnellement, j'ai l'impression que t'as été un peu sur tous les fronts.
Ouais, j'ai fait beaucoup de choses. En 2022, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est vraiment d'avoir été encore plus vers la création. Après, c'est pas forcément des choses dont j'ai beaucoup parlé ou quoi, mais j'ai beaucoup travaillé avec Paradiso Media sur Ubisoft, sur les podcasts lancés par Ubisoft. Donc il y a eu notamment toute une série avec Nota Bene, qui a été vraiment super, qui est sortie en plusieurs langues en plus. Donc c'était vraiment un super défi. Et puis il y a des choses qui vont sortir là, dans les mois qui viennent aussi. Et je pense que ouais, c'est d'avoir été de plus en plus vers de la création et des contenus créés en équipe, avec des équipes un peu plus importantes. Ça, c'est vraiment chouette parce qu'on a quand même souvent l'habitude d'être 2, 3, 4, mais de travailler avec ce noyau-là, mais un peu plus étendu, c'est-à-dire avec vraiment une plus grosse prod derrière qui va aller gérer des choses qui étaient trop compliquées pour des toutes petites équipes à gérer. Ça, c'est vraiment... je crois que c'est vraiment les choses qui m'ont enthousiasmé. Ça m'a vraiment enthousiasmé en 2022 de pouvoir faire ça, de pouvoir faire plus de musique aussi, de pouvoir habiller plus d'émissions et tout ça, ça a été vraiment chouette.
On se retrouve donc pour les deux ans de Génération Podcast. Je te propose de partager avec moi un petit bout de gâteau pour fêter l'anniversaire du podcast. Hervé appelle cette section l'interview bouche pleine. Je suis désolée pour les gens qui ne supportent pas ça.
Attends, je vais mettre plus fort, je ne vais pas m'entendre.
Alors Alex, je ne peux pas parler à bouche pleine, c'est quand même dégueu. T'es l'épisode, je sais pas si tu le sais, mais t'es l'épisode le plus écouté de toute l'histoire de Génération Podcast. Okay. Comme quoi, pas besoin de mettre en lumière que celles et ceux qui parlent dans le micro, finalement. T'es même passé, donc il y a quelques semaines, quelques mois, devant Marine Baousson et Charlotte Pudlowski. Donc vous êtes dans le trio de tête des épisodes les plus écoutés du podcast. Donc excuse, entre nous, hein, tout à fait entre nous, Alex, à vous, moi, tout. Qu'est-ce que passer dans Génération Podcast a changé dans ta carrière?
C'est très difficile de savoir ça. J'ai l'impression, tu sais, d'être quelqu'un de connu.
Bah,
c'est pas du tout vrai. Écoute, c'est super bizarre. Enfin, ça fait plaisir. Mais c'est toujours bizarre de voir. Bon, là, ce que tu me dis, ça. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Surtout que ça intéresse les gens, en fait, de les métiers, en fait, qui sont pas visibles. Après. Moi, les premières fois où je me suis rendu compte de la portée que pouvait avoir le podcast en général, c'est quand j'ai commencé à voir augmenter les chiffres d'Encore une histoire. Parce que Encore une histoire, on est. Donc, c'est une affaire de famille. C'est moi qui gère en fait toute la mise en ligne et ces choses-là. Et quand tu commences à voir les chiffres augmenter et recevoir des commentaires, des mails, des choses comme ça, là, c'est là en fait où. Enfin, quand commence à y avoir un véritable échange, parce que c'est quand même super abstrait en fait de prendre un fichier son.
Tu mets quelque chose en ligne, tu sais pas ce qui se passe.
Bah c'est ça. Ouais. Tu mets un fichier son en ligne. Bon, est-ce que quelqu'un va aller vraiment écouter ça? Et en fait, quand on commence à avoir des retours, des gens qui nous en parlent et tout ça, c'est assez incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable.
Ouais.
Je sais pas, qu'est-ce que ça te fait toi d'avoir un podcast comme ça, d'avoir des retours. Enfin, pour moi, je pense que c'est ça. D'avoir l'épisode le plus écouté, ça, je sais pas. J'ai pas envie d'avoir un ego trip terrible. Je suis pas rappeur.
Comme tu dis, en fait, je pense qu'il y a un vrai truc, en fait. C'est qu'en plus, ça peut être très solitaire, finalement. Tu vois, t'es à ton ordinateur, t'as ton petit MP3 que tu vas aller poser sur ta plateforme d'hébergement. Et puis... Bah, tu sais pas trop ce qui lui arrive, finalement, à ce truc-là. Et c'est pas facile, finalement, parce que si... tu prends pas soit le temps, soit les moyens, soit les deux d'ailleurs, d'aller créer en fait des lieux sur lesquels les gens peuvent venir te dire ce qu'ils en font du contenu que tu mets en ligne. Et tu sais pas grand chose quoi, à part effectivement les chiffres, même si on essaie de pas se baser que là-dessus, mais ça donne quand même une bonne idée.
En fait, si tu veux, moi qui ai travaillé à la radio, et dans une radio où les auditeurs ont quand même beaucoup d'importance, tu vois, RTL. Bah, y a plusieurs émissions d'auditeurs qui sont là depuis très très longtemps. Dans les émissions qui marchent très bien, enfin, c'est des émissions où on appelle, que ce soit pour de l'astrologie ou pour donner son avis. C'est quelque chose qui marche à la radio. Et c'est vrai qu'en podcast, il n'y a pas une seule façon de communiquer avec les podcasteurs. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve.
Ouais.
C'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire et que ça dépend aussi beaucoup d'où on vient. Si on est plus sur Twitch, sur YouTube... ou plus sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou autre. Hein. Maintenant, il y en a... Ça dépend un peu aussi des tranches d'âge, de nos utilisations. Enfin, voilà. Il y a énormément de moyens de communication différents. Et je trouve que c'est assez intéressant la façon dont c'est en train de changer encore aujourd'hui. Tu vois, entre il y a 3-4 ans et maintenant, les gens font... Enfin, on n'utilise pas du tout les podcasts de la même façon. Et on va pas aller dire les choses de la même façon. Typiquement, sur Encore une histoire, on a un répondeur qui sort toutes les deux semaines et les enfants envoient des messages. Enfin, c'est les parents qui envoient les messages pour leurs enfants. Et de temps en temps, il y a des parents qui parlent aussi. J'adore vos histoires. Moi aussi, j'écoute, j'attends les épisodes. Ce qui est super cool. Et il n'y a pas que les commentaires Apple Podcast, quoi. Il y a aussi sur Instagram, tu vois des commentaires. Il y a plein de choses. Après... il peut y avoir aussi des crowdfunding, il peut y avoir tellement de choses. Et ça se développe dans tous les sens. Je sais qu'il y a maintenant, là, au chat, ils ont rajouté des liens vers des serveurs Discord aussi, ou vers TikTok, enfin voilà, vers des canaux un peu plus modernes. Je trouve que c'est bien qu'il y ait de plus en plus d'échanges, qu'on puisse animer des communautés en fin de compte. On se retrouve autour d'un podcast, voilà, Génération Podcast, on se retrouve autour des podcasts, mais il y a tellement de sujets à explorer, tellement de choses différentes, je pense que c'est bien que ce soit hyper ouvert, quoi.
Pour terminer, Alex, Génération Podcast est un podcast qui se cherche. Alors, aide-moi à finir cette phrase. Génération Podcast, le podcast.
Génération Podcast, le podcast des podcasts.
Le podcast des podcasts, ça marche. Merci beaucoup, Alex. Alors, moi, j'ai appris plein de choses dans cette interview. D'abord, à m'excuser, comme je vous l'avais expliqué. Mais il n'a pas l'air d'être super rancunier, Alex, donc c'est plutôt chouette. Il y a pas mal de choses, en fait. Je trouve assez intéressant d'abord, les auditeurs et auditrices de Génération Podcast aient envie d'en savoir plus sur les métiers coulisses. Que ce soit, donc, je disais, il n'a pas compris complètement mon sarcasme. Je sais, qu'est-ce que ça a changé dans ta carrière d'être l'épisode le plus écouté du podcast, mais... Sincèrement, je trouve que ça veut dire aussi quelque chose, en fait, c'est qu'on a envie de savoir un peu qu'est-ce qui se passe un peu derrière le rideau. Et en tout cas, le métier, donc, il est ingé son, compositeur. Un truc qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il a écrit aussi des fictions. Lui-même, il est passé à l'écriture sur Encore une histoire au cours de l'année 2022. Mais je trouve assez intéressant, finalement, en fait, ce qu'il explique aussi, c'est que son travail est assez ingrat, d'une certaine manière, en fait, parce que, comme il dit, en fait, tu veux être aussi invisible que possible pour montrer que tout est naturel, que ça s'enchaîne bien. Et en fait, on remarque ton boulot que quand il y a un souci, quoi.
Mais c'est vrai que ce qu'il dit sur... alors, il ne le dit pas comme ça, mais un peu sur la starification du podcast. Voilà, c'est le podcast de Fabrice Drouel, tu vois. C'est le podcast de Léna Situation. Alors que en fait, derrière, il y a quand même des équipes qui bossent.
Ouais, surtout avec eux. Ils ont carrément du monde avec eux. Enfin, c'est pas... Ouais, non, c'est clair. Sur la communauté et comment est-ce qu'on communique avec nos auditeurs, nos auditrices. Alors moi, sur Génération Podcast, j'avais mis en place un répondeur qu'effectivement, j'ai pas continué juste par manque de temps de tout écouter, etc. pour obtenir des recommandations. Et Zu, d'ailleurs, sur la saison 1, t'en as fait pas mal des recommandations là-dessus. Vous avez, vous, je sais pas, des trucs qui ont marché, des trucs qui, à l'inverse, n'ont pas trop marché, en fait, pour réussir à rentrer en contact avec les auditeurs et auditrices de vos podcasts respectifs ?
Honnêtement, non. Mais déjà, quand tu demandes aux gens de laisser un commentaire sur Apple Podcast, personne ne le fait. Donc, hormis Anne Fleur et quelques autres. Mais c'est ce que j'ai fait remarquer dans le dernier épisode d'Une époque formidable, où à la fin, on fait la litanie des laisser un message. Voilà. Laisser un petit commentaire et 5 étoiles, c'est quand même pas cher payé pour une heure de divertissement qui n'a pas demandé une heure de travail. Donc voilà, passer 5 secondes pour trouver où on met les 5 étoiles et laisser un petit message, ce serait super sympa. C'est un peu le seul retour qu'on a en général, quoi. Hormis quelques commentaires sur Instagram, et là encore, c'est ultra rare, quoi.
Et toi, Vincent ?
Moi, il y a deux choses. Il y a les événements en live. C'est vrai qu'avec 7,40€, on a reçu...
Et ce serait une bonne idée de faire un live de Génération Podcast pour un anniversaire ou un truc comme ça.
Toi, je sens que tu tiens un truc, ouais. Ah. Rencontrer les gens qui nous écoutent.
Mais ouais, donc ça, c'est vachement bien, parce que les gens viennent, nous disent qu'ils écoutent ça dans le bureau, qu'ils essaient de pas rigoler, et ça fait vachement de bien d'entendre tout ça. Et en plus, je refais la litanie en live de dire, voilà, là, vous avez un show pendant 1h30, 2h. Alors, il y a le chapeau à la fin pour essayer de nous payer un petit peu. Mais sinon, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire si vous voulez pas mettre d'argent dans le chapeau. Il y a des gens qui font ça. Voilà. Mais après, ils sont en face de moi, donc ça joue aussi. Il y a effectivement les communautés Discord qui fonctionnent plutôt bien.
Ce qu'il disait, j'étais hyper surprise, je savais pas, je suis pas hébergée chez Ocha, c'est que Ocha a lancé un feature qui fait que tu peux publier automatiquement sur ton serveur Discord tes épisodes, et donc en fait pour inciter finalement les gens à créer encore plus de communautés sur les serveurs Discord. Vous êtes vous sur des Discord ?
J'ai horreur de ça. J'ai pas du tout l'esprit forum, et les rares fois où je suis allé sur des discords comme ça, je vois des trucs qui se répondent d'un truc de 3 paragraphes avant, donc faut remonter, remonter, redescendre pour essayer de comprendre la ref. C'est bon, quoi. Sans moi.
Puis il faut être régulier, en fait, pour réussir à faut être régulier en présence, tu vois, sur le forum, en fait.
Non, mais faut aimer les forums, faut aimer animer un truc comme ça. Alors après, bon, moi j'aime pas les forums, donc ça c'est perso, j'aime pas, mais c'est surtout que je me dis que si en plus du boulot qu'on se cogne pour produire des épisodes, faire la prod, le montage, chercher les invités, etc., etc., etc. Et qu'il faut en plus passer des heures sur des forums je suis désolé, mais j'ai pas le temps, quoi.
Ouais, non, mais de manière, t'as pas à le faire. Moi, je t'avouerais que moi, c'était sur Slack que j'avais lancé un truc au début de la pandémie. En fait, je l'avais appelé Génération Podcast avant que le podcast Génération Podcast existe. Je pense que j'ai une problématique qui était différente aussi. C'est que bah, je suis loin, que je produis, je dirais, à 90% en français. Et qu'en fait, j'avais besoin de créer du lien aussi, en fait, avec la communauté dans laquelle j'essayais d'évoluer, mais sans connaître personne, puisque je connais personne en personne. Enfin, je veux dire, vous deux, on s'est déjà vus, mais y a pas, je pense que je les compte sur les doigts de la main, si tu veux, les gens du podcast en France que j'ai rencontrés en vrai. Et ça m'a vachement aidé quand même, tu vois, de pouvoir échanger avec des gens qui traversent potentiellement les mêmes galères parfois, partager aussi des trucs qui marchent. Enfin bref, j'ai pas mal grandi avec ça aussi.
Je suis sur une trentaine de Discord et 90% c'est des podcasts.
Ah ouais, on est à tous les extrêmes du spectre.
Mais je les anime pas. C'est que... il y a très peu de ces discords qui sont sur mes podcasts ou des podcasts auxquels je participe. Il y en a qui sont à pur but professionnel. Et ceux qui sont ouverts au public, je ne fais pas l'animation dessus. J'ai essayé, ce n'est pas mon truc. Il y en a qui le font très bien et pas moi.
Et puis comme dit Hervé, c'est vrai que ça demande du temps, hein, l'animation, la modération et tout.
Ah ouais, non, c'est
cool. Le Slack de Génération Podcast était très actif, je pense, 2020-2021. Maintenant, 2022, bah non, en 2023 même,
ouais.
Je sais plus.
Il y a un décalage horaire, mais bon, quand même.
Ouais, quand même. Enfin, ça a vachement ralenti, en fait, parce qu'il faut, relancer un peu la conversation, il faut faire en sorte que les gens même se sentent à l'aise de participer et de partager des retours. Je sais qu'il y a Sens Créatif, le podcast de Jérémy Kless et de Laurent Bazar, qui a un Discord sur lequel je suis, mais je ne suis pas du tout active, mais... qui est hyper actif. Et en fait, ils ont réussi à créer une communauté de leurs auditeurs. Alors, c'est une niche, mais une grosse niche, qui travaille en fait dans les arts visuels. Et en fait, ils vont bien au-delà du podcast, quoi. Et je trouve assez fort, finalement, d'avoir réussi à créer cette valeur en plus.
Ou ils laissent leur communauté discuter en interne ?
Les deux. Mais tu vois, genre, t'as des offres de job, comme t'as des questions administratives sur les trucs de freelance, comme t'as trucs purement création, et t'as aussi des chaînes qui sont dédiées au podcast lui-même. Enfin voilà, je trouve qu'ils ont bien transformé leur essai là-dessus.
Respect.
Mais c'est vrai que le podcast, un des trucs qui est très fort, c'est la relation qui se crée avec
la proximité.
C'est ça, avec les gens qu'on écoute.
Oui, mais c'est à sens unique.
Exactement,
on se sent
c'est
très proche d'eux et eux ne sentent rien.
Oui,
et inversement.
Mais c'est quand même, t'as l'impression d'avoir des gens dans ton salon et au bout d'un moment, tu les connais.
Mais c'est pour ça que ce serait sympa d'envoyer un petit mot, de faire un coucou, un mail, un truc. On est assez facilement joignable, même quand on n'affiche pas son adresse mail partout ou ses réseaux partout. On trouve vite les personnes et vu le boulot que ça demande, ce serait quand même un chouette retour des choses d'avoir un petit message spontané de temps en temps, qu'on n'ait pas besoin de mendier des étoiles. Mais cela dit, alors après, moi, pour pondérer, effectivement, je fais ça plutôt pour les podcasts indés.
Ce que j'allais dire, tu le fais, toi.
Voilà, mais je reconnais mes torts. Je le fais plutôt pour des podcasts indés, pas toujours, effectivement, parce que, en plus, maintenant, j'écoute sur Pocket Cast. Donc, tu vois, si je veux mettre des étoiles, il faut que je change d'appli pour aller voir machin. Et sur Spotify, il faut avoir écouté le podcast pour pouvoir laisser des étoiles.
Ouais, enfin, tu as besoin d'écouter une minute ou deux. Hein.
Ce n'est pas un iPhone. Comment je fais pour mettre des étoiles sur Apple Podcast?
Sur Spotify. Moi, sur Spotify, maintenant, je le fais quasiment tout le temps parce que c'est hyper simple, c'est hyper rapide. Sur Apple Podcast, je me rends compte, tu vois, sur French Expat, je fais souvent des appels. Enfin, je ne le fais pas souvent, justement, mais je le faisais beaucoup au début. Et en fait, quand je disais presque quoi écrire, en fait, j'avais une petite vague de reviews sur Apple Podcast. Genre, je sais pas, parlez-moi de votre épisode préféré sur Apple Podcast ou dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez entendre sur Apple Podcast, etc. Et là, en fait, j'avais des petites vagues, les gens répondaient. Parce que je trouve, c'est vrai, des fois, c'est un peu intimidant. Genre, tu vas dire quoi ? Bon podcast. Enfin, tu vois, t'as envie aussi d'être un peu original.
Ouais, tu peux mettre, oui, j'ai passé un bon moment, merci. C'est bon, quoi.
Dites brumisateur, sinon, si vous ne savez pas.
Alors, je vous invite tous à aller commenter les podcasts de Vincent. Je vous mettrai les liens en description. Et à commenter brumisateur.
On l'a fait il y a des années sur Dr. Watt, où à la fin, toute fin d'un épisode, si vous écoutez jusqu'ici, envoyez-nous brumisateur.
C'est vrai.
Et ce truc-là était en 2019.
Ouais. Et t'en reçois
aujourd'hui
encore,
on a encore reçu un brumisateur.
Ah, c'est génial.
Donc,
j'aime bien, moi, créer... C'est vrai que je le fais moins dans Génération Podcast, mais sur French Expat, où j'ai un peu plus de temps à y dédier, c'est vrai. J'aime bien, en fait, créer des petits rendez-vous, en fait, à la fin de l'épisode. Bah, déjà, c'est tout con, mais ça permet aussi... d'encourager les gens, tu sais, à écouter. Parce que quand tu écoutes le générique de fin, quand tu entends le générique de fin, moi j'ai tendance à dire bon, bah c'est
bon, c'est fini, je passe à autre chose. Et dès qu'ils commencent à entendre la litanie des étoiles et des machins, ils se barrent.
Bah ouais, mais c'est clair. Mais puis je les comprends, si tu veux. Hein. Mais c'est vrai que maintenant j'ai créé des petits rendez-vous. Alors moi, je mets souvent des extraits de ce qui se passe après. Je rajoute pas mal de bloopers aussi. Et j'essaye de créer des petites, des petits moments, en fait.
Je préfère laisser les gens le découvrir par eux-mêmes. Qu'il y a une blague à la fin ou un truc comme ça.
Ah oui, non, mais c'est ça, moi je leur dis pas. Mais du coup, je sais que le taux de complétion d'écoute, en fait, si tu veux, des épisodes, progresse depuis quelques mois, depuis qu'on fait ça, et je suis assez contente.
Bah, c'est l'effet Marvel, hein. Tu mets la scène après le générique pour que les gens y restent pendant le générique.
Je dois vous faire une confession, je n'ai jamais vu un Marvel.
Ouais, alors moi non plus, mais Pixar fait ça aussi. Pixar, ils font des faux bêtisiers. Enfin, des bêtisiers avec des personnages d'images de synthèse, tu vois, comme s'ils avaient loupé des scènes, quoi.
Bon, je vous propose qu'on continue nos conversations sur le podcast. Vincent, toi, tu as voulu donc nous parler d'une catégorie de podcast qui est un peu méconnue. Il me semble que c'est le podcast Compagnon, mais qu'est-ce que c'est ? Raconte-nous tout.
Alors, le podcast Compagnon, avant d'être un format particulier, est-ce que c'est pas un pléonasme ? Parce que, bon, le podcast, bah, c'est quelque chose qui accompagne nos journées, en fait. Au moment où j'ai écrit C'est beau, la voix d'Hervé résonnait dans mon salon. Oh. Voilà, c'est une époque formidable qu'on vit là, quand même. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, quand on parle de podcast compagnon, on parle essentiellement d'un podcast visant à accompagner une autre œuvre de fiction. Et aujourd'hui, où le dématérialisé domine, c'est l'heureux héritier des commentaires audio qui étaient disponibles sur nos feux DVD ou Blu-ray.
Ah, c'est vrai, on avait la version commentée
C'était génial, enfin, pas toujours, mais parfois, il y avait des commentaires super éclairants sur les coulisses du film. Ça coûtait rien à faire et ça permettait de remater le truc avec plein d'infos. Ouais.
Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
Sans doute.
Ah ouais,
ah, bah,
les commentaires
Shabba,
audio sont fous.
Ah, trop bien, ok, bah, écoute, tu vois, je tenterai.
Et donc, par exemple, en ce moment, est diffusée une petite série indépendante d'une chaîne qui s'appelle HBO, et la série s'appelle The Last of Us. Le lundi matin, je regarde la série en faisant un peu de sport et en buvant un café, vu que je fais quand même pas 50 minutes de sport d'affilée. Puis, j'écoute le podcast officiel où les deux créateurs de la série débriefent leurs décisions de réalisation, de casting, de montage et d'adaptation par rapport au jeu vidéo initial. Puis, un peu plus tard dans la semaine, j'écoute Mimi Hegel, que Hervé, tu as reçu il n'y a pas longtemps, justement.
Il n'y a pas longtemps, et on a parlé de The Last of Us, justement.
Qui débriefe l'épisode en podcast, mais avant ça sur Twitch, avec un ou une invitée. Et puis, à un moment, j'écoute aussi Listen to the Game, qui est un podcast de Let's Play Audio. Donc, on écoute le jeu vidéo et on écoute la narration juste à travers les oreilles.
Alors, attends, je suis complètement à la ramasse. The Last of Us, c'est aussi un jeu vidéo ?
C'est à la base un jeu vidéo.
Ouais. Ah, d'accord. Ok, ok.
Donc au bout de 6 semaines à ce rythme, j'ai de moins en moins de courbatures cette série est beaucoup plus présente dans ma vie que si j'avais juste binge-watché les 9 épisodes en une journée comme une série Netflix se fait en ce moment. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, le compagnonnage n'est-il pas l'essence même du podcast de bande avec les 2 heures de perdu, le roi Stephen, Dr. Watt, j'en parlais juste avant, Ami, 7,40€, Fake Doctor et Real Friends. C'est que des podcasts qui décortiquent des œuvres, et il y en a plein, et ça permet aux fans ou aux créateurs et créatrices de s'exprimer, de partager, de transmettre leur passion, tout ça très facilement.
Et de se retrouver en communauté, du coup, comme on en parlait tout à l'heure.
Et de se retrouver en communauté, exactement. Moi, je regrette un peu que le format du compagnonnage officiel, pour l'instant, ce soit surtout 2 ou 3 personnes dans un studio autour d'une table qui racontent des trucs de manière très sèche et sans trop de mise en forme. Même sur une série comme Only Murders in the Building, dont l'histoire, c'est 3 personnes qui sont fans de podcast et qui vont lancer leur podcast sur un meurtre qui a eu lieu dans leur immeuble, y a un podcast compagnon où les créateurs de la série débriefent sur ce qui a été révélé dans cet épisode, comment ils ont fait avancer l'enquête, tel ou tel personnage, tel ou tel acteur ou actrice qu'ils ont adoré faire venir. Mais moi, ce que j'attendais, c'était le podcast créé par les 3 personnes.
Il aurait fallu le faire, ça aurait été génial.
C'est clair.
Et à quel moment, il n'y a personne qui s'est dit, mais ça aurait été une sorte de fiction audio de la série. Et ça aurait été trop
génial.
Bien.
Génial, ouais.
Donc, s'il vous plaît, faites-nous des choses différentes. Faites-nous un making of audio, où vous vous faites venir quelqu'un sur le tournage et vous faites raconter des trucs. Vous pouvez dire, là, vous voyez, c'est Joe, le dino. On nous l'a prêté, parce que oui, on a des vrais dinosaures. Et vous pouvez faire ça sans problème, ça fera pas fuiter d'image le film, c'est que de l'audio. Et en même temps, ça sera différent que de trois personnes autour d'une table qui vous racontent des trucs. Alors, on m'a dit de faire court, et d'habitude, je fais des recos, donc je vais finir par une reco, où c'est l'inverse, c'est The Beef and Dairy Network Podcast, le podcast du réseau du bœuf et produits laitiers. C'est le podcast compagnon de The Beef and Dairy Network, qui est un média fictif sur les passionnés de bovins et de comment les élever.
C'est premier degré ou...
C'est absolument premier degré, mais à un point... En fait, c'est premier degré, mais décalé. Le premier épisode, c'est une interview d'un chercheur qui recherche s'il y a de la vie sur Mars. Et la question de l'intervieweur, c'est: est-ce que vous avez cherché pour des traces de sabots? La personne fait: non, on cherche des micro-organismes. Donc vous pouvez pas m'assurer qu'il n'y a pas de bœufs ou de bovins sur Mars. Bah si, je peux vous l'assurer, parce qu'on n'a pas trouvé de micro. Mais vous n'avez pas cherché pour des traces de sabots, comment vous pouvez en être sûr? Donc voilà, c'est très premier degré, mais très décalé.
Oui, mais très british.
Ouais, c'est ça.
Très, très british. Donc c'est hyper drôle, ça dure entre 20 et 40 minutes en fonction des épisodes. Il y a des épisodes en live. Le seul truc, c'est que bah, y a beaucoup de blagues récurrentes qui s'installent au fur et à mesure. Et donc, bah, si on prend...
Tu les captes pas. Ouais.
Voilà, il faut les écouter dans l'ordre parce que ça permet de voir le truc se construire. Mais foncer, bah, ça vaut le coup. C'est très bien.
Il y a beaucoup d'épisodes
Network. Il y en a, oui.
2800.
Non, alors.
Non, t'exagères, il y en a. Allez.
Épisode 93 sorti aujourd'hui.
Ah,
ouais, quand même. Quand même.
Si vous aimez beaucoup les bovins et le lait.
Eh, ça date de 2015 en même temps, hein, donc ça commence à. Donc voilà, et pour rebondir sur ce qu'on disait avant, si un podcast compagnon existe ou un podcast qui parle d'une œuvre que vous aimez bien existe, eh ben, et que vous l'écoutez et que ça vous fait plaisir, laissez un petit message, un petit commentaire pour ces créateurs. Ça prend 15 secondes et ça fait plaisir.
Justement, bah, cette histoire de parler, enfin d'écouter en fait un podcast déjà bien installé dans l'ordre, c'est une des questions que tu as abordées avec la personne que tu es partie rencontrer, Hervé, non ?
Exactement. Mais on va laisser un petit peu le mystère s'installer sur l'identité de cette personne. 3, 2, 1. Nous sommes le dernier jour de janvier. J'arrive dans un quartier résidentiel de la proche banlieue parisienne. Il y a plein de petites maisons, toutes différentes les unes des autres. On entend des bruits de travaux un peu partout, on a l'impression que tout le quartier est en rénovation. J'ai suivi toutes les indications qui m'ont été données. Voyons voir où nous conduit cette mystérieuse enquête. Alors voilà, je suis arrivé.
Salut. Hello Julien, comment vas-tu ?
Ça va et toi ?
La forme ?
Ouais.
Tu reviens tout juste de Brest ?
Pardon ?
Le micro ouvert, j'ai appris des meilleurs.
Hein. Bienvenue.
Merci beaucoup.
Toujours un bruit de machine à café, à un moment ou à un autre.
Bah, c'est les bruits du réel quand même, en fait. Si je fais du café, je fais du café. Et puis, moi, je suis pour enregistrer les bruits de café. Je ne sais même pas sur quoi tu vas m'interviewer.
Donc, du coup, tu as bu un petit café chez Julien.
Voilà, donc je suis allé à la rencontre de Julien Cernobori, vous l'aurez deviné. Et donc, le principe de cette rencontre, c'était de voir un petit peu, comme pour Alex, ce qui avait changé dans sa vie depuis. Et donc, on est retourné dans son application de podcast pour voir à quelle date était passé l'épisode de Génération Podcast dans lequel il figurait. Parce que, mais comme on n'est pas très réglo sur les dates, donc lui pensait que ça faisait 2 ans. Je dis oui, mais le podcast a 2 ans, donc machin, là, tout ça. Donc, on s'est remis devant, on a regardé. Et voici donc la date à laquelle Julien Cernobori est passé dans Génération Podcast. Et je crois que c'était l'épisode avant ou après le mien, d'ailleurs.
Alors, attends. Ouh là là. 18 avril 2021. Eh ben, depuis, j'ai dû faire... Il devait y avoir 50 épisodes en plus de mon podcast, déjà. Il m'est arrivé des milliards de choses. Une nouvelle piste chaque semaine. J'ai pas toujours tout traité. J'ai plein de trucs en retard. Il m'est arrivé que j'ai rencontré le commissaire qui était en charge de l'affaire Thierry Paulin dans les années 80. Ensuite, j'ai enquêté dans le 14e arrondissement et mon enquête a été interrompue parce que, au nouvel an, il se trouve que j'ai été tout à fait par hasard invité chez des gens qui avaient vécu probablement dans un appartement où un meurtre de Paulin avait été commis. Et je ne le savais pas et eux ne le savaient pas vraiment et on s'en est rendu compte et c'était absolument incroyable. Et donc, du coup, je suis parti sur cette piste-là pendant longtemps. Et là, j'ai recommencé à enquêter dans le 14e arrondissement. En fait, il s'est passé beaucoup de choses et pas grand-chose non plus, parce que dans mon podcast, il ne se passe donc pas grand-chose, quoi.
Il s'est passé beaucoup de choses dans l'enquête, mais il s'est aussi passé une chose, c'est que tu as décidé de revoir un petit peu le rythme de diffusion. Et c'était peut-être pas audacieux, mais c'était particulier. Enfin, fallait oser le faire quand même.
En fait, jusqu'à présent, je diffusais un épisode tous les 15 jours. Et pour mes contributeurs au Patreon, les dimanches où il n'y avait pas d'épisode, je leur diffusais un bonus. Et du coup, j'étais parti dans une double narration. Il y avait la narration des épisodes et la narration des bonus. Et j'étais éreinté. Et j'étais perdu dans ma narration parce que ça me demandait trop de travail et je me suis dit que la solution, ce serait de faire différemment. Il fallait aussi que j'ai plus de... Il faut que, toujours que j'ai plus de contributeurs au Patreon parce qu'il faut que je puisse gagner ma vie avec ce podcast qui me demande 100% de mon temps, voire plus. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais proposer à mes contributeurs des épisodes en avant-première entre 2 et 3 mois avant qu'ils soient disponibles sur les applis. Et du coup, ça m'a amené beaucoup de nouveaux contributeurs et j'aime bien cette formule en fait. Du coup, je peux me concentrer davantage sur ma narration et ça, c'est génial. Ça m'enlève un poids. Ça a été plutôt bien reçu, sauf quelques critiques de gens qui ont dit, mais en fait, voilà, si on est pauvre, comment on fait pour écouter Cerno ? Ben, c'est pas grave, on attend 3 mois. Je peux pas ne pas gagner ma vie en fait. Il faut que je travaille comme tout le monde. C'est très chronophage, donc voilà, c'est une façon de gagner ma vie. Et ce qui s'est passé aussi depuis 2 ans, c'est qu'il y a un auditeur contributeur assez jeune qui m'a contacté pour me dire qu'il était libraire et qu'il voudrait faire du podcast. Il m'a demandé s'il pouvait me donner un coup de main, m'aider. Et je lui ai dit, ben non, en fait, j'ai vraiment l'habitude de travailler tout seul, je vois pas ce que je pourrais te faire faire. Mais comme c'était un contributeur, je lui ai dit, mais on va quand même aller boire un café, je vais prendre le temps d'écouter quels sont tes projets, tout ça. Et en fait, je me suis bien entendu avec lui, je lui ai proposé de passer à mon bureau pour lui montrer 2-3 trucs. Et en fait, il est passé régulièrement et au bout d'un moment, il a posé sa démission à sa librairie. Et c'est devenu un peu mon apprenti, assistant. Et du coup, une partie de l'argent du Patreon passe pour le payer lui. Et c'est super parce que du coup, lui, il fait des bonus, il réalise des bonus. Et il me donne un coup de main sur la mise en ligne, sur le montage, il me donne son avis. Et ça, ça change tout parce que j'étais vraiment tout seul. J'aime bien travailler tout seul. Mais avoir un deuxième cerveau, c'est quand même très précieux, quoi.
Il y avait déjà des contributeurs et contributrices qui t'accompagnaient des fois sur des reportages.
Il y a quelques personnes qui m'aident sur l'enquête, comme Lisa Doll, par exemple, qui est une journaliste qui aime beaucoup enquêter. Elle me donne plein de tuyaux, elle recherche plein de choses, elle trouve plein de dossiers, de pièces, de personnes, mais quelqu'un qui m'aide vraiment au montage, à la réalisation, à la mise en ligne. Toutes ces tâches qui ne sont pas inintéressantes pour moi, j'aime beaucoup les faire, j'aime beaucoup tous les aspects de mon métier, mais parfois c'est trop. Et là, ça me soulage et je peux... En fait, je me sens beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux dans mon quotidien, donc c'est super.
Alors justement, tu parlais du temps. J'aimerais savoir le rapport que tu entretiens avec le temps, que ce soit le temps de l'enquête, le temps de production. Je pense que là aussi, on doit partager quelque chose, c'est de bien aimer laisser reposer un montage pour le reprendre quelques jours après et l'écouter avec une oreille fraîche. Je trouve que ça a vraiment beaucoup de valeur et que ça apporte beaucoup au montage, à la post-production. Ou le temps qui a passé depuis le premier épisode. Comment tu résumerais tout ça ?
Bon, déjà, j'ai l'impression que tout mon temps est consacré à ce travail, quasiment. Bon, j'ai quelques loisirs, j'essaie de me reposer et tout ça, mais finalement, on se repose jamais vraiment. J'ai toujours un truc un peu en tête, même... J'essaie de beaucoup lire et toutes mes lectures en fait, nourrissent mon travail ou j'ai l'impression qu'elles le nourrissent. Je tourne beaucoup en ce moment, je fais beaucoup de reportages et effectivement, je les laisse reposer parce que c'est assez intense le tournage. Si je m'y mets tout de suite au dérushage et au montage, je peux très vite éprouver un dégoût. Donc pour éviter ça, je le laisse reposer quelques jours, je l'écoute peut-être une semaine après ou en tout cas quelques jours après. Je fais un dérushage. J'attends le lendemain pour faire un deuxième passage, etc. Donc voilà, parfois on a l'impression qu'on ne travaille pas, mais en fait c'est un processus et les choses se font.
Il faut l'accepter.
Par exemple, quand je bloque sur un montage, je pourrais me dire il faut absolument que dans 1 heure j'ai terminé. En fait, non, pas du tout. Je vais prendre une douche, soit je vais me balader. Et souvent, c'est à ce moment-là que j'ai la solution. Je rentre vite chez moi ou je sors vite de ma douche pour aller m'y mettre parce que j'ai trouvé la solution et voilà, c'est très bien. Ou alors je laisse passer une journée, ou voire davantage. Ensuite, par rapport au début du podcast, je me faisais la réflexion hier, j'ai l'impression de ne plus être la même personne, alors que ça fait que 3 ans que j'ai commencé mon podcast. 4 ans, presque 4 ans alors. Et bien, j'ai l'impression de ne plus être la même personne. Je pense avoir une méthode de travail. J'ai de l'endurance maintenant, je peux vraiment supporter une lourde charge de travail. Les reportages me font plus vraiment peur. Je me sens beaucoup plus confiant. Je sais pas, mais en tout cas, je pense que je suis plus du tout le même. Et j'ai beaucoup vieilli, je pense. Je ne savais pas que ça durait aussi longtemps et je savais pas que ça prendrait cette tournure-là. Mais effectivement, il y a une continuité. Parfois, je le regrette un peu parce que je me dis que il y a des gens qui voudraient peut-être écouter Cernot et qui voudraient pas se taper non plus 200 épisodes. Mais en même temps, bon, bah, c'est comme ça. C'est des trucs. Tu peux pas te mettre sur Cernot au 52e, quoi. Tu vas rien comprendre. Surtout pas au 100e et tout. Donc, parfois, je me dis, peut-être qu'il faudrait qu'au 150e, je me dise, bah, en fait, je fais un nouveau départ pour accueillir des gens qui ne voudraient pas tout réécouter depuis le début. Il faut que je réfléchisse.
Effectivement, c'est la question qui se pose, c'est que quand tu disais il y a plus d'un an que tu dépasserais les 100 épisodes, on avait du mal à te croire. La barre a été franchie. Et maintenant, quand tu dis que ça va être l'œuvre de ta vie et que ça ne s'arrêtera jamais, on te prend forcément au sérieux. Comment tu arrives à te projeter aussi loin ?
En fait, c'est super agréable de se projeter aussi loin parce que je pense que si ça s'arrêtait, je serais terriblement désœuvré, déprimé. Et voilà, j'aurais l'impression de lâcher mon enfant, quoi. Et du coup, je me dis que c'est un podcast qui va m'accompagner dans le temps et que je vais probablement vieillir avec. Et c'est toujours un projet, en fait, qui va m'habiter et qui me nourrit, quelque part. Ça me rassure beaucoup d'avoir ce projet avec moi qui m'anime tout le temps, quoi. Et j'aime bien le fait de le voir grossir comme un monstre. Et au bout d'un moment, ça va me dépasser. Peut-être qu'il faudra que je délègue l'enquête à d'autres reporters et on verra, quoi.
Pour faire écho à ce que tu disais à l'instant, d'avoir peut-être une bifurcation dans la ligne narrative, est-ce que tu envisagerais éventuellement de passer à une autre anti-enquête ou que le podcast continue d'exister, mais peut-être en s'éloignant de l'affaire Paulin pour s'intéresser à autre chose et qu'en fait, ce dispositif narratif puisse s'adapter à d'autres histoires et continuer de te suivre dans ta vie ?
Alors, tout est possible. Peut-être que je passerai à une autre enquête à un moment, mais je me dis que l'affaire Thierry Paulin mérite d'être épuisé quand même, et pour être épuisé, ça peut prendre vraiment plusieurs décennies, finalement, parce que tous les jours, en ce moment, j'ai tous les jours une nouvelle piste, quasiment tous les jours, j'exagère quand je dis ça. Mais il y a un mois, je me disais, en fait, oh là là, c'est vrai que je travaille sur l'affaire Thierry Paulin, j'avais presque oublié, j'étais vraiment sur autre chose, quoi. J'y pense un peu moins à l'affaire, quoi. Je pense aux personnes que je rencontre, aux personnages qu'ils deviennent dans le podcast, à ma narration et tout ça, donc je pense moins à l'affaire. Et parfois, oui, j'ai des espèces de piqûres de rappel, ouais, comme en ce moment. Elle revient et je suis dessus et je réfléchis un peu, mais j'ai tendance à l'oublier quelque part. Et
c'est-à-dire que par rapport à des séries documentaires qui vont justement retracer une enquête, comme ça a pu être le cas sur le Bugalette Braise, par exemple, on sait que ça va être 6-8 épisodes, c'est construit, c'est scénarisé. Là, toi, tu es dans un exercice complètement différent puisque l'enquête avance au rythme de tes rencontres et il y a un début. Il y aura peut-être une fin, on ne sait pas encore, mais c'est un travail qui se nourrit de lui-même. C'est très étrange comme façon de faire. Je ne connais pas d'autres séries qui fonctionnent comme ça.
En fait, là, j'ai presque plus rien à faire. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, les reportages viennent à moi et on me donne rendez-vous quasiment. Et donc, c'est vrai que ça s'emballe et je ne maîtrise pas la narration et c'est ça qui est super, en fait. Enfin, si, je maîtrise évidemment le montage et tout ça. Mais je ne sais pas où ça va et c'est ça qui est super parce que dans la vie, on ne sait jamais où on va finalement. Et c'est agréable de s'abandonner à ça. Parce que souvent, ça fait peur, on veut contrôler. Et là, ben non, je ne contrôle pas et je suis toujours surpris. Et je me dis, waouh, tu te rends compte de ce qui s'est passé ? J'arrête pas de parler de ça à mes amis et tout. Mais il m'est arrivé ça. Et il y a un truc, j'avais mon micro ouvert dans la rue et puis telle personne est venue me voir et m'a parlé. Pour un reporter, c'est super parce que je n'ai pas à me prendre la tête sur qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, quel sujet je vais aborder. En fait, non, ça vient tout seul et c'est à moi d'expliquer comment ça vient et de prendre les gens par la main, voilà, pour les emmener avec moi dans ce truc, quoi.
C'était une super interview et c'est super agréable d'avoir de ces nouvelles et puis d'écouter sa voix. Il a une voix assez enivrante, ouais. Julien. Comment est-ce que tu as choisi d'aller parler à Julien, Hervé ?
J'avais choisi d'interviewer Julien parce qu'on avait tout d'abord envisagé de le faire monter sur scène lors du live et lui ne le savait pas. Quand je lui en ai parlé, il était très surpris qu'on ait prévu de le faire monter sur scène. Et puis parce que j'ai le plaisir de le connaître un peu et que c'est un garçon foncièrement gentil. Ça fait toujours un peu concon de dire de quelqu'un qu'il est gentil, mais c'est le cas avec Julien, qu'il soit gentil, hein, pas concon. Et donc, j'ai pu lui rendre visite chez lui. Et alors, j'ai eu le privilège de rentrer dans son bureau. Dans le bureau Vous voyez ces films policiers où sur un mur, il y a plein de post-it, de photos, de trucs. De...
Les fils de laine, là.
Ouais, alors bon, il n'y a pas les fils de laine chez Julien, mais il y a un grand tableau blanc sur lequel sont posés des trucs. Tu vois, il y a des photos, il y a des papiers, il y a des trucs, des tas de notes. C'est extrêmement organisé, hein, très très propre. Hein. C'est pas bordélique du tout. Hein. Et donc il y a ça sur un pan de son mur, enfin un pan de mur de son bureau. Il y a son bureau à lui et le bureau de son assistant dont il parle, voilà, qui est juste à côté. Donc voilà, j'ai vu un petit peu la fabrique de Cerno.
Ah, les vraies coulisses,
c'était
quoi.
C'était très sympa. On a discuté un petit peu, j'allais dire hors micro, même s'il tournait encore. Donc j'ai quand même une trace de ça, mais le micro était quand même très très loin de lui. Donc c'était pas dans l'idée de le monter pour le garder dans cette interview-là. Mais je lui ai demandé s'il avait déjà été approché pour faire des... Ou si même lui avait eu l'initiative de penser à faire des produits dérivés de Cerno. Alors, quand on dit produits dérivés, hein, pas forcément des mugs ou des t-shirts, mais peut-être un livre, tu vois, un livre qui regrouperait des facsimilés de rapports de police, des photos des lieux, etc. Et donc, il m'a dit qu'effectivement, il avait déjà été approché par des maisons d'édition, qu'il est en train de travailler sur un projet en matière d'édition. Je vais rester très, très, très évasif parce que Julien ne m'a pas dit si j'avais le droit ou pas d'en parler.
Bah après, il savait que tu avais le micro ouvert.
Ouais, mais il y a aussi une question de confiance, tu vois, où je ne pense pas qu'il m'ait dit ça, c'est off. Il ne m'a pas dit ça, c'est off. On discutait, mais comme on n'était plus, tu vois, il n'avait pas le micro sous le nez, je considère que c'était vraiment du off. Donc, je reste très, 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 très évasif, même si j'en sais beaucoup plus que ça, sur la nature du projet. Donc, il y a un projet autour de Cerno en matière d'édition. Je reste extrêmement vague et ça n'est absolument pas ce que j'ai dit comme exemple. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut être.
Mais j'ai envie de lancer une anti-enquête.
Et il pourrait y avoir une autre déclinaison de Cerno en fiction audiovisuelle.
Trop cool. Moi, ça me fascine aussi que Julien se projette si loin.
Ouais, c'est fou, ouais.
Je veux dire, quand il te dit l'affaire Thierry Paulin, il y en a encore pour plusieurs décennies avant d'épuiser le sujet. Enfin, je trouve ça complètement ouf.
À la manière dont il aborde le sujet, oui, parce qu'il fait tellement de digressions. C'est pour ça que de temps en temps, il oublie même qu'il traite de cette affaire-là, parce que ça, c'est au gré des rencontres, des indices, des pistes qu'il peut retrouver, des témoignages qu'il va recevoir, des gens qu'il contacte spontanément. Donc oui, je pense que ça, c'est effectivement, il a cette expression de dire, j'aime bien le voir grossir comme un monstre, comme si la créature lui échappait, tu vois, au bout d'un moment, et que... Il y a une espèce de génération spontanée de nouvelles pistes, de choses comme ça. Donc, c'est vraiment un podcast très, très singulier, je trouve. Il n'y a pas d'équivalent, à mon sens.
Et justement, quand il dit « les reportages viennent à moi tout seul, si tu veux », je trouve qu'il a une approche quasiment poétique en fait, du truc, parce qu'avec Zu, on en avait parlé quand on avait fait un épisode « Écoute-moi si tu peux ». Pour lui, c'était « on allait résoudre un truc ». Non, tu ne résous pas. C'est une approche où, je ne sais pas, tu vas rendre hommage aux victimes ou tu vas raconter cette histoire. Mais je trouve qu'il faut être quand même vachement ouvert, en fait, et hyper réceptif, en fait, aux signes qui se mettent un peu sur ton chemin, si tu veux. Parce que, je sais pas, je me souviens de quelques épisodes où, en fait, c'était une personne, je crois, transgenre qu'il avait rencontrée dans le 14e et il a fait deux épisodes dessus. Enfin, si tu veux, le parallèle, il n'était pas du tout immédiat, quoi. Et en fait, c'est se laisser finalement porter par les rencontres. Il dit que ça vient à lui, mais enfin, il faut quand même un certain talent, quoi,
pour être ouvert à ces rencontres.
C'est incroyable.
Mais oui, non, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il a aussi acquis une certaine notoriété dans le milieu du podcast et dans le milieu des auditeurs. Donc, en presque 4 ans, les gens
qui ont été
concernés de plus ou moins près par cette affaire-là peuvent être au courant qu'il y a une contre-enquête, enfin une anti-enquête en cours, et possiblement voilà, des gens qui, par ramification, vont contacter Julien en disant « voilà, je connais cette personne-là qui a rencontré Paulin à telle époque, etc. etc. » Et donc, c'est pour ça que je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, les choses viennent à lui, parce qu'il a tellement amorcé la pompe avec plus de 100 épisodes au compteur, que ouais, ça fait des ricochets assez inattendus.
Et alors, Vincent, toi, quand on en avait parlé, tu ne l'avais jamais écouté. À l'issue de l'épisode, tu m'avais dit que ça t'avait quand même donné envie. Est-ce que tu l'as écouté depuis Cerno ou pas?
Non, j'ai touché.
Ah là, tu attends quoi? Qu'il en fasse 150?
Et je crois que c'est même pas dans mon appli. C'est peut-être pour ça que je
alors,
passe mon temps.
Alors vas-y, tu t'abonnes immédiatement.
Et alors, dans quoi je classe?
En documentaire de vie.
Ouais, documentaire, ouais.
Dans documentaire, allez.
Mais c'est un peu un ovni, hein, en l'occurrence. Hein. C'est qu'il coche plusieurs cases. Et de toute façon, c'est tellement, et c'est pas pour rien que ça s'appelle Cerno, c'est tellement lié à sa personnalité qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire ce qu'il fait.
Je lui poserai bien la question, d'ailleurs, un jour, de savoir comment est-ce qu'il a choisi le nom. Parce que c'est un gars qui est tellement humble, en fait, c'est presque... ça va vachement bien et ça a vachement de sens qu'il ait choisi ce nom-là. Mais ça me paraît presque surprenant qu'il ait choisi un morceau de son nom, tu sais.
Ouais. Ouais, mais c'est comme si c'était un double, en fait. Il y a Julien et il y a Cerno.
J'ai mis les trois premiers épisodes dans la playlist.
Allez.
Ah, temps, quand super. Même. Tu te souviens qu'il faut l'écouter dans l'ordre.
Hein. Et attends, parce que si tu es contributeur au Patreon, tu as des centaines de bonus.
Moi, je suis contributrice.
Ouais. J'ai pas été contributeur tout de suite. Et du coup, quand j'ai eu accès au flux RSS Patreon, une avalanche de bonus, de trucs. Et j'étais paralysé devant le truc en me disant, mais est-ce qu'il faut que je les prenne dans l'ordre?
Pour les coups, le bonus, tu peux les suivre dans d'autres...
J'imagine, mais voilà, parce que moi, j'étais bien avancé dans la lecture des épisodes normaux. Et d'un seul coup, j'avais peut-être, je sais pas, un an et demi de bonus à rattraper. Quoi. Donc, c'est un peu presque intimidant de voir la somme que ça représente.
Depuis la création de Génération Podcast, j'ai à cœur de partager mon micro. Vous le savez, vous avez entendu Monsieur Fiction Audio Ozu, mais aussi Mélanie Hong, qui nous racontait les actus de l'écosystème podcast dans la saison 2. Et depuis le début de la saison 3, c'est Solène Rigoulet qui nous a rejoint. Mais qui est Solène ? Alors, Solène Rigoulet, je la connais en fait par le Slack de Génération Podcast. On s'est rencontrés toutes les deux, ainsi qu'avec plein d'autres podcasteurs et podcasteuses, lors de Vision Podcast que j'organisais quand j'avais un peu plus de temps le lundi matin. Solène, elle est journaliste radio depuis pas mal d'années et elle a aussi un podcast qui s'appelle Friendship, dans lequel elle raconte des amitiés dans des formats interview, mais aussi dans des formats courts très narrés que j'adore. Mais Solène, vous connaissez aussi sa voix dans Génération Podcast, car depuis octobre dernier, bah, elle fait partie de la team. En fait, lorsque j'ai commencé à chercher des chroniqueurs et chroniqueuses, elle s'est très vite portée volontaire. Ma première question pour elle, bien entendu, bah, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle a accepté ma proposition. Et je vous préviens par avance, j'avais la crève, une fois encore, donc vous pardonnerez ma voix dans cette interview qui n'est pas super agréable à écouter.
Et bien alors, tout simplement parce que déjà j'écoutais le podcast et je me suis dit, mais en fait moi il y a plein de choses que j'ai découvert avec le podcast et j'ai aussi envie de faire découvrir ce que j'aime dans cet univers-là. Et puis c'était aussi me challenger un peu parce que moi je suis journaliste de formation, j'ai arrêté un peu le journalisme, enfin bon, pour faire du podcast, même si en soi il y a des choses en commun. Mais en fait, de base, je t'avais proposé de faire des reportages en immersion, un peu dans des festivals, etc., de podcasts. Et puis finalement, en discutant, on s'est dit que voilà, tu t'allais me laisser carte blanche sur cette chronique. Et je suis assez contente parce que même si pour l'instant, je n'ai pas fait d'immersion, ça va venir en tout cas, normalement pour le mois d'avril. Si je spoil pas trop, mais du coup ça me permet vraiment de me replonger dans les podcasts que moi j'ai adoré écouter, même ça me force à en découvrir chaque mois, je vais fouiller un peu dans les fins fonds des apps de podcasts, donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté, pour me forcer à aller voir un peu ce qui se fait ailleurs.
T'écoutais déjà toi donc du coup beaucoup de podcasts, tu peux me parler de tes habitudes d'écoute, je sais pas, t'en écoutes dans quelles circonstances, quel volume finalement d'écoute est-ce que tu fais, est-ce que t'as tes petits rendez-vous hebdomadaires,
ouais.
Est-ce que t'essaies de te laisser surprendre régulièrement?
Bah, au début quand j'ai découvert l'univers du podcast, j'en écoutais surtout en voiture parce que je faisais énormément de route et donc ça me faisait passer les temps de trajet assez follement et c'était très très bien. Maintenant que j'ai un rythme un peu plus casé à la maison, en travaillant à la maison, j'ai vraiment mes podcasts pour quand je vais me balader, les podcasts quand je cuisine, les podcasts quand je vais faire le ménage. Enfin, c'est vraiment dédié en fonction du temps de concentration que je peux accorder aussi à chaque émission de podcast.
Bah, donne-nous des exemples, je sais pas, du coup, t'as quoi comme... c'est quoi ton petit podcast de ta balade? C'est quoi ton podcast vaisselle?
Et bah alors, en ce moment, mon podcast vaisselle, c'est La Chamade de Samia. Parce que du coup, ça me permet de ne pas voir le temps passer. Et c'est vraiment hyper détente, tout ça. Et plus quand je me balade, c'est des trucs sur lesquels j'ai besoin de plus réfléchir. Donc, ça va être tout ce qui est engagé sur des questions de féminisme. Par exemple, j'écoute beaucoup Mansplaining. Je vais écouter Entre nos lèvres. Ça, c'est dans les plus connus. Vu que je fais du podcast maintenant à longueur de temps, j'en écoute moins qu'avant aussi. C'est ça qu'il faut dire. C'est que vu que j'ai le casque sur les oreilles pour faire du montage très régulièrement, bah, j'ai moins de temps pour écouter des podcasts.
Le cordonnier le plus mal
c'est
chaussé.
Ça.
Moi, c'est pareil. Et comment est-ce que tu les découvres, du coup, les podcasts que tu écoutes? Est-ce que, je sais pas, t'es abonné à des newsletters? Est-ce que t'as des potes qui te font des recommandations? Est-ce que, enfin, je sais pas, comment est-ce que t'arrives? Ce que je trouve, ce qui est le plus dur, en tout cas pour moi, dans la découverte de podcasts, c'est
réussir à sortir de sa bulle, en fait. Mmh. Parce que finalement, on écoute un type de podcast et puis tu as plein de types d'autres podcasts, tu veux, qui vont un peu intersecter avec cela. Mais il y en a très différents qui pourraient nous plaire, en fait. Mais c'est assez difficile, je trouve, de, ouais, bah, de réussir à les avoir sur notre radar. Il y a tellement de podcasts, finalement.
Bah, c'est vrai que parfois, moi, je plonge dans l'application et tu sais, je cherche dans la loupe, ouais, et je vais vraiment dans le bas fond, même si c'est pas le cas. Enfin, ça peut être de très bons podcasts, mais c'est ceux en tout cas qui sont moins bien référencés dans les apps. Et donc, je vais vraiment fouiller, je vais regarder un peu la description, voir si ça peut m'intéresser. Et sinon, en fait, de temps en temps sur Twitter, je mets un tweet en disant balancez-moi vos recos, quel podcast il faut que j'écoute et tout. Et donc, y en a qui soit recommandent leur podcast, soit ils vont recommander d'autres podcasts. Et du coup, je vais regarder en fonction des thématiques ce qui peut m'intéresser. Après, je fais quand même un tri au niveau des thématiques. C'est vrai que moi, je vais écouter beaucoup sur la justice sociale, sur le cinéma. Par exemple, j'écoute pas mal sur le cinéma aussi. Et puis, tout ce qui est divertissant. Mais après, divertissement de... Tu vois, en ce moment, la chamade, c'est divertissant. Mais je vais pas aller sur des trucs de geek, peut-être. Tu vois, pour le coup, moi, ça m'intéresse pas trop.
Oui, forcément, t'as des affinités, ouais, c'est normal. Alors, j'aimerais bien revenir un tout petit peu aussi en arrière, ouais, pour toi. Donc, tu es journaliste, tu le disais, de formation, et c'est ça aussi le début de ta carrière. Ouais. Tu étais journaliste radio, initialement ?
Ouais, j'ai travaillé 5 ans en radio et dans des radios locales. Ouais. J'ai jamais bossé en nation, par contre.
Quelle est finalement ton histoire avec le son, tu vois ? Comment est-ce que je sais pas, t'as grandi en écoutant beaucoup la radio ? Est-ce que, enfin, tu vois, comment est-ce que le son finalement s'est un peu imposé à toi dans la vie ?
Moi, il y avait tout le temps la radio chez moi. Enfin, dès le matin, je sais que je me levais au petit-déj et mes parents, il y avait la matinale d'Europe 1 à l'époque. Voilà. Et même, tu vois, dans la voiture, je me souviens engueuler mon père parce que ça me saoulait, tu vois. Il était sur RMC, sur ce genre de trucs. Et moi, j'étais là, mais je veux entendre de la musique. Je veux pas entendre des gens qui parlent et qui se gueulent dessus. Donc, voilà. Et donc, j'ai toujours grandi avec ouais, la radio en toile de fond. Mais par contre, quand je suis allée en formation journaliste, je pensais pas du tout faire de la radio. J'étais vraiment allée dans un truc, je vais faire de la presse écrite. Moi, je voulais parler sport parce que c'est une de mes passions. C'était, je voulais faire du journalisme sportif et c'était mon idée, quoi. Et en fait, j'ai découvert les métiers de la radio en fait en formation et je me suis dit que bah, tout simplement, j'adorais ça, qu'en plus, on avait un studio radio à l'école, c'était trop chouette. Et donc, je me suis spécialisée là-dedans et puis après, j'ai quitté le sport pour faire de l'information locale, mais c'était tout aussi bien.
Solène, si je te dis Génération Podcast, tu me dis le podcast.
Qui t'en fait découvrir d'autres.
Est-ce que tu te souviens d'ailleurs comment tu l'avais découvert, Génération Podcast ?
Je me souviens pas comment je l'ai découvert, mais je me rappelle très bien où j'étais la première fois, le premier épisode que j'ai écouté.
Ah ouais, ouais. C'était lequel ?
Moi, j'ai vraiment des souvenirs visuels. Et alors, le premier épisode que j'ai écouté de Génération Podcast, où c'était, après le contenu m'a un peu échappé depuis parce que il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, mais c'était avec Quentin Bresson et je me rappelle très bien être en voiture sur les routes enneigées des Vosges pour aller en reportage au fin fond de la cambrousse française et je me disais oh, c'est trop cool qu'il y ait de la neige parce que je vais pouvoir ralentir et écouter l'épisode jusqu'au bout avant d'arriver à mon reportage. Donc voilà ma découverte de Génération Podcast.
C'est hyper marrant ce que Solène raconte parce que j'ai un très très j'ai un souvenir vivide de la fois où tu m'as envoyé le premier vocal pour me dire hey, à force de me laisser des messages, tu voudrais pas faire des chroniques et tout. J'étais sur le quai de mon RER et puis je t'envoyais aussi des vocaux, mais en bon boomer que je suis, c'est vrai que les vocaux c'était pas ma tasse de thé à ce moment-là, mais ouais, c'était un souvenir marquant et j'ai souvent ça avec les podcasts, de me souvenir où est-ce que j'étais quand je les écoutais.
La première fois ? C'est trop marrant. Et tu te souviens d'ailleurs, toi, pourquoi tu avais accepté de rejoindre Tu t'étais dit oui, finalement, vu que j'écris des chroniques pour le répondeur toutes les semaines.
Non, mais c'est ça. Et puis, c'est un défi. Et puis, c'est vrai que j'écoute plein de trucs. En parallèle, il y avait Thomas et Mathilde qui faisaient des tweets et des threads sur Twitter assez réguliers. Et je me suis dit, bah tiens, moi aussi, j'écoute plein de trucs différents de eux, donc ouais, pourquoi pas moi aussi mettre ma pierre à l'édifice, et puis voilà.
Trop cool, mais en tout cas tu nous as ravi les oreilles pendant toute une saison. Alors, initialement, vous le savez, cet épisode et ce feu live devaient donc avoir lieu au mois de décembre. L'occasion rêvée, initialement donc, pour faire un podium de nos découvertes de l'année 2022. Aujourd'hui, on est le 23 février. Donc, on est un petit peu à la bourre, mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu un leitmotiv dans Génération Podcast, donc c'est pas grave. J'avais imaginé en faire une newsletter spéciale de ce podium, parce que j'ai une newsletter de recommandation de podcast. Mais là aussi, je suis tellement à la bourre que un top 10 des podcasts 2022 en plein mars, bah, c'est bof.
C'est bien, t'as eu le temps de bien réfléchir.
Ouais, on a le temps de bien réfléchir, de s'assurer de pas reproduire ce que d'autres ont fait. Mais tout de même, en tout cas, j'ai bien envie de creuser cette histoire. L'objectif de Génération Podcast, bah, c'est de faire découvrir les nouveaux podcasts. Alors Vincent et Hervé, préparez-vous, car la question va venir vers vous très bientôt. Pour gagner du temps, j'ai posé la question à Alex et Solène de savoir quelles sont les découvertes qui les ont vraiment marquées en 2022. Côté podcast, je vous propose qu'on les écoute.
Bah, je crois que Jour Noir...
C'est la on
passe la journée avec quelqu'un.
Dans la peau...
Ouais, dans la peau d'un homme noir de 30 ans, voilà. Ouais. Et c'est une série en...
C'est le jour de ses 30 ans, je crois.
Ouais, c'est le jour de ses 30 ans, ouais. Et c'est une série en 3 épisodes. Et vraiment, c'est... Ouais, c'est assez fou. Autant sur la forme que sur le fond. Je trouve que sur la forme, c'est quand même... Enfin, ça va très loin dans la production et dans comment c'est fait, c'est assez dingue. Et puis... Le fond est super intéressant. C'est à la lisière de l'autofiction, du documentaire. Je sais pas trop comment classer ça, en fait.
C'est un documentaire hyper puissant qui met très mal à l'aise, mais du coup, c'est bien parce que je pense que ça fait se rendre compte, en fait, de certains privilèges dont on entend parler. Mais je trouve que l'audio a ce pouvoir, en fait, de nous amener dans les situations avec la personne. Et je trouve que je sais pas si c'est la prise de conscience, mais la claque est d'autant plus grande. Enfin, je sais pas, il y a un truc vraiment hyper puissant, je trouve, qui se passe dans ce podcast.
Bah, il y a un truc très intime, parce que c'est tout à la première personne, quoi.
Ouais.
Et ouais, c'est tout avec un seul point de vue. Et du coup, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, ça amène de la réflexion et ça amène de la réflexion pendant longtemps. Tu vois, c'est pas un truc où une fois que tu l'as écouté, c'est terminé et puis tu peux aller écouter n'importe quoi. Ça va rester et puis dans les semaines qui suivent, moi j'ai pas mal repensé. Je pense que ça a été pour pas mal de gens, ça a été une assez grosse claque ce podcast sur la fin de l'année 2022. Ouais. C'est un format qui m'a beaucoup intéressé, en plus d'un point de vue au-delà du sujet, etc., d'un point de vue formel, je trouve que hyper, hyper intéressant, quoi, ce format-là. Après, j'écoute quand même des podcasts anglo-saxons, et il y en a un qui est toujours, que j'écoute toujours, quoi, c'est 20,000 Hertz. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Le podcast de Dallas Taylor. Ça, c'est sûr.
Ah, je connais pas, vas-y, raconte.
C'est un podcast sur le sound design, en gros, sur tout ce qui est lié au design sonore. Que ce soit, il y a tellement de sujets, en fait. Le son de Windows, le son de Star Wars, tu vas avoir aussi... ils ont fait un super épisode, un truc vraiment super bien sur les serveurs vocaux.
D'accord.
Tous les anciens numéros que tu appelais pour parler à ta star favorite, où c'était des trucs un peu automatiques.
Oui, c'est vrai.
mais voilà, c'était toute une histoire des années 90. Voilà, il y a tout ce truc-là. Il y a des épisodes sur tellement de trucs. C'est assez incroyable et c'est super bien fait.
Ouais.
C'est vraiment super bien fait.
Ah, trop cool.
Aux alentours de 30 minutes. Et c'est hyper dynamique. Et puis, il y a mille références si on aime les films aussi. Il y a plein de trucs sur le sound design dans les films qui sont super fouillés. C'est toujours intéressant, même des sujets qui peuvent paraître un peu bizarres. comme il y a un épisode qui s'appelle Breathe, donc Respire, qui parle vraiment de l'histoire de l'hôte du podcast, Dallas Taylor, et comment est-ce qu'il en est venu à faire du sound design, mais qui est un épisode très particulier dans ce truc-là, mais qui est hyper profond, quoi. Vraiment un truc... Il y a pas mal d'épisodes maintenant, et il y en a qui sont... aussi sur les synthétiseurs. Il y a vraiment à la fois des choses très pointues et à la fois ils arrivent à le vulgariser et à le rendre accessible à beaucoup de monde. Après, il faut être anglophone.
D'accord.
Ou vraiment bien comprendre l'anglais, quoi. Mais c'est un podcast que j'écoute à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, quoi. j'écoute ça à chaque fois, quoi.
Ouais, il y a un truc, mais je crois qu'on en a tous déjà beaucoup parlé dans le milieu du podcast, donc j'ai envie de dire Super Green Me, mais c'est un peu vu et revu.
C'était un très bon podcast, Super Green Me.
Ouais, bah du coup, je suis devenue VG avec ce podcast, donc tu vois, ça a quand même bien influencé.
Sérieux ?
Ma vie.
Ah ouais, un impact de ouf.
Ouais. Ah, qu'est-ce... Ça m'embête parce que c'est déjà des gros podcasts, mais sinon, moi, ma révélation de 2022, ça a été Histoire d'argent.
D'accord,
parce que,
avec Fablo.
Ouais, c'est un sujet pour moi... dont j'ai jamais eu de mal à parler avec mes amis, en tout cas. Ça a été toujours assez facile de leur parler d'argent et de mes problèmes d'argent. Eux n'ont pas toujours l'effet inverse. Mais du coup, ça m'intéressait vraiment de voir pourquoi c'est un tabou. Enfin, tu vois, d'écouter les gens en parler et de trouver des points communs ou non et puis d'essayer d'évoluer un peu sur le rapport que j'ai là-dessus, quoi.
Vous connaissiez ces podcasts ?
Bah oui, parce que Jour Noir, c'était la reco à laquelle j'avais pensé initialement. Enfin, pour moi, c'est une des rares productions de l'année qui m'a réellement et agréablement surpris. Parce que c'est vraiment le type de prod qui m'intéresse, sur laquelle il y a une vraie réflexion sur le fond et sur la forme. Et c'est un sujet de société traité de façon très originale. Donc, pour le coup, voilà, c'est sincère, profond et ça fait réfléchir. Donc, j'adhère totalement. Et Super Green Me, bah, pareil, il était plus ou moins sur ma liste parce que dans un genre différent, ça coche à peu près les mêmes cases en traitant un sujet important. J'allais dire à hauteur d'homme, ce qui est sans doute le meilleur moyen de faire prendre conscience des enjeux et des solutions qui sont à notre portée. Et pour preuve, Solène est devenue végétarienne, donc voilà. Je suis curieux de voir ce que donnera la deuxième saison.
Ouais, c'est incroyable l'impact. Je sais pas si Lucas et Mathilde réalisent en fait l'impact qu'ils
si,
ont
je pense,
avoir
parce qu'il y a, ils ont pas mal de retours, je crois, de leurs auditeurs quand même.
Et toi, Zu ?
Moi, c'est 20,000 Hertz que je connaissais
pas.
Dans les
écoutez,
trois.
Franchement, c'est fabuleux, quoi.
Moi, pareil, il m'a donné trop envie d'aller
c'est
l'écouter.
C'est délirant.
Puis, je viens de voir qu'il y avait 190 épisodes, enfin, ça va être trop bien.
Et c'est vrai que tu peux te risquer, même si les titres, des fois, sont pas super explicites, tu peux y aller quand même, c'est toujours intéressant, quoi.
On mettra toutes nos recommandations et les recommandations dans les notes de cet épisode. Moi, perso, le podcast qui m'a le plus marqué et que j'ai envoyé, je pense, à tout mon répertoire WhatsApp, c'est un podcast qui est en fait sorti en 2021, mais que j'ai découvert en 2022.
Bon, ça compte,
c'est Yoko Trigallo qui me l'avait recommandé. Ouais, non, mais bon, je suis obligée d'en parler parce que franchement, c'est un podcast qui m'a touchée, qui m'a tenue en haleine, que j'ai pas réussi à poser. Ça s'appelle Onde de choc. Je sais pas si vous connaissez par Podio.
Mm-mm. Non, ça me dit rien.
Alors, c'est un podcast en 6 épisodes qui raconte l'histoire vraie du naufrage et du sauvetage de Kevin Escoffier sur le Vendée Globe. Et en fait, c'est raconté par lui. C'est raconté par la personne qui l'a...
Donc ça spoil un peu, donc il s'en est sorti, il n'y a pas de suspense. Quoi.
Enfin, ça a été dans les médias, tu le sais. C'est pas une fiction. Mais donc, c'est raconté par des personnes du Vendée Globe, c'est raconté par sa femme, etc. Et en 6 épisodes, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. La narration est incroyable. L'habillage, sans en faire trop, t'as l'impression, si tu veux, de vivre les scènes avec eux. C'est touchant. T'as le suspense. Même si tu sais que le mec s'en est sorti, tu sais pas comment il s'en est sorti. C'est vraiment, je peux que vous le recommander si vous avez un peu de temps. Franchement, écoutez-le.
Ezu, ta reco 2022 alors ?
Alors, Marocco 2022, quelque chose qui m'a fait rire, pleurer, fait découvrir des trucs. C'est un podcast anglophone qui s'appelle Everything is Alive.
C'est américain, ouais.
Ah oui. Ah ouais, c'est
génial. Mais on n'en avait pas déjà parlé ? Parce que c'est le podcast que je recommande à tout le monde dès que je croise quelqu'un.
Toi et moi, je ne suis pas sûre qu'on en ait parlé.
Il est fabuleux, ce podcast, ouais.
Il faudrait que je réécoute. J'essaye d'interviewer... c'est quoi, c'est Yann
Chilag.
Comme ça. J'essaye de le contacter depuis des mois pour l'avoir dans Génération Podcast, mais il répond.
Ouais, mais je lui avais envoyé un mail pour lui proposer une adaptation française. Il n'a jamais répondu.
Alors, vas-y, décris-nous de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors, Everything is Alive, c'est un podcast d'interview où donc Yann Chilag interview des objets qui vont raconter leur histoire, en tout cas... leur point de vue sur le monde qui les entoure, qui peut être un monde...
En impro.
Voilà, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est de l'impro en plus.
Oui, c'est partiellement de l'impro, parce qu'il y a quand même des points de passage.
Ouais, moi, il y a un truc qui me déplaît ouais, dans le truc, c'est quand on fait un petit insert et qu'on va interviewer un spécialiste du truc, etc., je trouve que c'est un peu en trop.
Eh ben moi, je trouve ça vachement bien, justement. C'est-à-dire que dans chaque interview, il y a un petit insert de réalité, où il y a un coup de fil à un spécialiste ou quelqu'un à qui a un témoignage ou quelque chose. Et non, moi, je trouve ça vachement bien. Je trouve qu'on apprend des choses. Enfin, et puis, en plus, il y a des interviews qui sont hyper touchantes. Je pense à l'interview des Paupérus, où ces trois frères et sœurs qui sont...
qui s'emboîtent.
Donc,
c'est joli.
Voilà. Bref, Everything is Alive, y a des épisodes très drôles, il y a des épisodes plus touchants, la musique elle est bien, moi j'aime bien les interviews, et ça va vite à écouter vu que c'est 15-20 minutes. Et pour le coup, il y en a beaucoup moins à rattraper que tout à l'heure Beef and Dairy Network, donc ça se fait bien.
Alors moi j'ai des petits recos, parce que du coup je suis parti sur Jour Noir à Super Green Me. Alors je plus sois Everything is Alive parce que c'est juste une merveille, je plus sois également 20,000 Hertz parce que c'est un de mes podcasts préférés. Y en a un que j'ai déjà recommandé dans Génération Podcast, c'est Heavyweight, pareil, foncez là-dessus, c'est vraiment une pure merveille. Alors moi j'ai deux petits recos, je vais essayer d'aller vite. Je vais vous parler de La Chamade. Alors vous allez dire ouais c'est du copinage, mais dans ce cas vous m'expliquez pourquoi on est là réunis tous les trois.
C'est le podcast vaisselle de Solène.
Voilà, moi je fais pas ma vaisselle pendant que je l'écoute. En général même maintenant j'assiste à l'enregistrement.
Oui, ce que j'allais dire, c'est dans
voilà,
ton salon.
C'est chez moi. Alors très sérieusement, je cite La Chamade parce que Samia a très intelligemment adapté la narration d'un podcast américain qu'elle adore. Elle s'en cache pas, ça s'appelle Normal Gossip et elle a adapté cette narration à un sujet qui la passionne, c'est l'amour. Et voilà comment on traite un sujet rebattu de façon originale. Samia reçoit un ou une invitée qu'elle fait réagir à la vraie histoire d'amour qu'elle lui raconte. Et quand ça se résume aussi simplement, c'est que c'est une bonne idée. Un autre podcast, alors là qui est vraiment limite 2023, mais j'ai rencontré son autrice en 2022, donc on va dire que ça compte. J'ai rencontré Delphine Pérezan-Roudil l'été dernier à l'issue du Paris Radio Show. Elle avait déjà son projet en tête et me l'avait pitché très simplement. Un podcast sur la couleur bleue. Et là, je me suis dit que j'aurais bien aimé avoir cette idée.
Oui.
Parce qu'en gros, elle va s'intéresser au bleu sous toutes ses formes. Ça commence par le bleu clin, le fromage bleu, le sang bleu, la blue note ou le bleu de travail. Donc son premier épisode, je le disais, est consacré au bleu clin. Il est sorti fin janvier et dans la facture, il m'a immanquablement fait penser à mes amis Lisa et Jérémy Thomas de Sens de la Visite parce que ça se passe dans un musée. Mais c'est une coïncidence. Et pour le coup, je suis impatient d'écouter le deuxième à l'heure où nous enregistrons.
Trop bien, mais j'en avais entendu parler, je crois, que Mathilde Mélin avait fait un épisode de Sans Algo sur ce à quoi s'attendre en 2023, et elle m'avait carrément donné envie en fait, de le découvrir. Je ne savais pas qu'il était déjà sorti.
Mais quelle idée originale, quoi.
Eh ben merci pour toutes ces recos, je les compilerai, vous pourrez les retrouver facilement sur les réseaux de Génération Podcast, et si ça passe dans la description de cet épisode. On approche de la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour conclure, qu'est-ce que vous souhaitez, je sais pas, comment est-ce que vous voyez notre écosystème, l'industrie du podcast évoluer en 2023? Et puis peut-être, je sais pas, est-ce que vous avez des souhaits, des trucs pour Génération Podcast?
Génération Podcast, bah déjà qu'on puisse faire le 3e anniversaire en live, pour de vrai.
Ce sera peut-être 3 1 quart
oui,
ou 3 moins 1 quart, on
ne
sait pas.
Précis dans
mais
le calendrier.
Ce sera un live.
Enfin, qu'on boive des bières ensemble, hein, c'est tout.
Avec des micros.
Voilà.
Avec des micros, c'est tout.
Mais sur le podcast en 2023, il y aurait plein de choses à dire, mais je ne vais pas lancer le débat. Mais on a eu toute une flopée d'articles qui disaient que le podcast était mort, enfin que l'âge d'or du podcast était passé, etc. Moi, plus que ça, je pense qu'on va peut-être atteindre la maturité et peut-être un petit plateau dans le développement, mais ce n'est pas forcément un mal parce qu'il y a peut-être plein de gens qui se sont engouffrés là-dedans par opportunisme et qui vont se lasser en se rendant compte qu'on ne fait pas de l'argent, enfin qu'on ne fait pas énormément d'argent très très vite et qui vont peut-être enfin laisser la place aux gens qui aiment vraiment ce média.
J'aurais pas dit mieux que les opportunistes se lassent, que les passionnés continuent de nous passionner et ça fera plein de beaux podcasts.
Pour les 3 ans, on espère donc pouvoir se retrouver en personne, peut-être à Paris, je pense que c'est le plus probable. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Julien Cernobori, merci à Alexandre Ferreira. Encore désolé, ainsi qu'à Solène Rigoulet. Merci à toi Hervé, merci à toi
merci
Vincent
à toi,
pour ce que vous apportez au podcast de manière générale et votre participation ici, c'est toujours un chouette moment. Et puis, puisque on l'a seriné à longueur d'épisode, eh bien oui, si vous avez encore une demi-seconde et que vous avez envie de nous aider à nous développer, rendez-vous sur vos applis de podcast. Il y a Apple Podcast, il y a Spotify, il y a Castbox aussi, il me semble, sur lequel vous pouvez mettre 5 étoiles, tant qu'à faire. Et n'hésitez pas, je sais pas, à nous parler dans les commentaires de qui vous aimeriez entendre, de comment est-ce que vous voyez la suite de Génération Podcast ou à l'inverse, de comment vous nous avez découvert et de ce qui vous plaît dans ce podcast. En tout cas, nous, on adore vous lire. Et puis, ça nous aide à faire grandir ce projet. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Et joyeux anniversaire, Génération.
Ouais, bon anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Génération Podcast.
Hey. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.